Constantin de Vergennes, bonjour, heureux de vous retrouver cette semaine encore pour la revue commentée de France Catholique. Un numéro musclé cette semaine, un numéro qui alerte entre autres dans un grand dossier sur les dangers de l'occultisme avec le père Jean-Christophe Thibault qui nous fait l'amitié de fournir des émissions à Radio Maria France. C'est ésotérisme, magie, quel danger! Et là, cette
bonjour
semaine,
Olivier, bonjour à tous. Oui,
oui il nous l'a dit à l'antenne, c'est de plus en plus répandu dans la société française et dans le monde entier, les pratiques occultes. Vous nous parlez d'une étude de la Fondation Jean Jaurès de novembre 2020 qui explique que 58% des Français croient en une parascience.
Oui, l'ésotérisme est partout dans l'actualité et a commencé par exemple un cercle médiatique par l'affaire Paul Pogba, où il est question de maraboutage. Alors, ça peut paraître un détail, mais ça révèle un phénomène de fond. Et puis, surtout, l'occultisme est partout sur les réseaux sociaux, dans les librairies, où il est question de sorcières, par exemple, qui deviennent le nouveau modèle que l'on propose aux jeunes filles, de magnétisme, de pouvoir des pierres. Et donc, pour faire le point, nous offrons au lecteur une interview croisée donc, du père Jean-Christophe Thibault, qui est prêtre du diocèse de Metz, et puis Olivier Joly, qui est un ancien médium. Et les deux ont signé un livre nommé « La prison des esprits ».
Et les deux, ils sont passés par l'occultisme et les deux ont payé un lourd tribut à cette pratique.
Oui, on pourrait dire qu'ils savent de quoi ils parlent, dans la mesure où le père Thibault découvre le pendule quand il est jeune, et c'est pour lui une porte d'entrée dans l'occultisme qui le mènera plus tard à l'hypnose, au contact des esprits, et puis surtout à la profanation d'une église et à des rituels sataniques. Il intègre même un mouvement scout pour répandre ce satanisme en quoi il croit parmi les jeunes de son âge, sauf qu'en pleine veillée de prière, la conversion. D'un coup, et au bout de la conversion, l'entrée au séminaire et l'ordination sacerdotale. Et Olivier Joly, de son côté, il était médium, et c'est lorsque sa fille se retrouve sous emprise démoniaque qu'il contacte le père Thibault pour des séances d'exorcisme, et il se débarrasse de son matériel de médium.
Et c'est un chemin aussi pour Olivier Joly qui continue. C'est encore des séances, car c'est une influence tellement néfaste et tellement poisseuse que souvent c'est du temps et du temps avant de retrouver une clarté. Quelle différence font-ils entre ésotérisme, occultisme et magie, peut-être ces termes qui se mélangent ?
Oui, effectivement, il y a une différence et les mots ont du sens. L'ésotérisme, c'est le concept selon lequel il existe un savoir caché qui ne se transmet que d'initié en initié. Et d'ailleurs, c'est l'une des caractéristiques de la foi catholique, et justement d'être à l'opposé de l'ésotérisme, puisque la foi en Dieu, la connaissance de Dieu est donnée à tous. Il n'y a pas un réseau d'initiés. L'occultisme, c'est la mise en pratique de ce savoir d'initié, et la magie, c'est l'une des formes de cette pratique aux côtés de l'astrologie, de la divination, etc. Mais la grande confusion se situe peut-être au-delà. Elle se situe dans le rapport que les catholiques imaginent que l'Église entretient avec l'occultisme.
Pouvez-vous nous en dire plus ?
Oui, il y a plusieurs idées reçues, que l'Église ne croit pas à l'existence de la magie et que de fait elle n'a pas vraiment d'avis sur la question, ou bien que l'Église ne croit pas à l'existence de la magie mais qu'elle la condamne quand même. En vérité, l'Église dit que la magie existe et elle la condamne. Alors nous reproduisons pour nos lecteurs les extraits du catéchisme de l'Église catholique qui exhorte les croyants à abandonner toute curiosité malsaine, c'est l'expression dédiée, et parle même de pratiques gravement contraires à la vertu de religion. Et comme l'explique le père Thibault dans nos colonnes, le piège serait de penser que la magie ne serait qu'une histoire de croyance. Alors, c'est troublant, je vous l'accorde, pour nos esprits peut-être parfois trop cartésiens, mais le prêtre du diocèse de Metz explique qu'il existe des phénomènes objectivement troublants, le pendule, la cartomancie, le tarot divinatoire, les guérisseurs, tout cela, pour lui, rentre dans la catégorie occulte.
Et quel est le danger, selon eux, de ces pratiques ?
Alors, le père Thibault témoigne, les chrétiens qui ont recours à ce genre de pratique n'arrivent par exemple plus à prier ou plus à aller à la messe. Il y a une formule glaçante, il y a toujours un prix à payer et cela peut devenir dramatique quand on devient débiteur du démon. Puis il y a aussi un risque de dépendance, et là c'est Olivier Joly, l'ancien médium, qui nous le raconte, de manière d'ailleurs très franche. Il évoque un cercle vicieux, notamment pour tout ce qui relève des médecines alternatives. Plus un guérisseur ou un magnétiseur opère de guérison, plus il devient réputé et expérimenté. Alors attention, hein, ils ne prétendent pas dire quelle médecine alternative, j'allais dire, relève de la médecine ou non. Hein. Nos deux invités dessinent une ligne de démarcation très claire. Dès qu'une médecine repose sur le principe magique de relation avec le monde invisible, et en particulier les anges déchus, alors cela relève de l'occultisme. Le père Thomas évoque, par exemple, pour être concret, les coupeurs de feu qui prétendent guérir les brûlures.
Vous évoquez aussi un autre sujet en lien, c'est la communication avec l'au-delà.
Ah oui, c'est tentant, hein, entrer en contact avec ceux que nous avons perdus. C'est ce qu'on appelle la nécromancie, qui est un sujet d'ailleurs qui est évoqué par la Bible dans le livre de Samuel lorsque le roi Saül rencontre une sorcière. Alors le prêtre, là encore, hein, témoigne, hein, pour les lecteurs de France catholique, quand on cherche à entrer en contact avec les défunts, c'est toujours le diable qui finit par se manifester. Alors on pourrait résumer le maître mot, hein, de cette interview que nous proposons, c'est attention. Padre Pio utilisait une image très parlante. Le diable, disait-il, est un peu comme un chien attaché à une laisse. Si vous vous tenez à distance, il ne peut pas vous attraper, mais si vous vous approchez, c'est là qu'il risque de vous mordre. C'est donc par notre volonté que le diable peut nous atteindre.
Vous évoquez un sujet sombre aussi, et pour alerter, c'est le sujet des messes noires à travers les âges.
Oui, c'est un article du père Jean-François Thomas, qui est jésuite. La messe noire est l'apogée, si l'on peut dire, de l'occultisme, mais elle ne date pas d'hier, mais des premiers siècles, où les gestes liturgiques à l'époque sont singés, parodiés. Au Moyen-Âge, il y a la figure évidemment de Gilles de Rais, qui a pourtant côtoyé la sainteté, hein, en la personne de Jeanne d'Arc, et jusqu'au XXe siècle et encore aujourd'hui, comme en témoignent d'ailleurs les régulières profanations d'église et vols d'hosties consacrées dans les tabernacles.
Alors dans ce numéro, vous filez cette histoire d'occultisme dans le reste du journal. Il est question du diable, en effet, et pour les esprits les plus avertis aussi, des réseaux sociaux que vous mettez en lien. Et vous vous demandez franchement, sont-ils une invention diabolique?
Oui, là encore, l'article que nous proposons peut faire sourire. Hein, après tout, dire que les réseaux sociaux seraient d'inspiration diabolique peut sembler excessif. Alors, c'est notre chronique, hein, d'apologétique, et Frédéric Guillot, comme chaque semaine, signe un texte au vitriol, mais il s'interroge. Quelle conclusion tirer lorsque l'on voit dans les transports en commun, parmi les familles qui font des promenades le week-end en plein air, dans les salons, dans les différents foyers français, quand on voit toutes ces personnes dont les yeux sont rivés à leur écran, notamment sur les applications des réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Facebook, Twitter et compagnie. Et nous dit Frédéric Guillot, ces gens qui sont absents du monde, absents à leurs proches, à leur corps, à leur nature, à leur culture et à eux-mêmes. Qu'est-ce que cela signifie? Alors, il y a une grande imposture, hein. Les réseaux sociaux qui veulent connecter les gens entre eux, pour reprendre la formule, détruisent en vérité, nous explique Frédéric Guillot, toute sociabilité purement humaine. C'était d'ailleurs pas tant une question de contenu, hein. Frédéric Guillot prend l'exemple de TikTok, où vous zappez d'une vidéo de 20 secondes à une autre. C'est très addictif, puisque toujours nouveau. C'est cette immédiateté, cette structure des réseaux sociaux, ce turnover perpétuel qui, selon lui, fait du mal. Et il affirme même que l'humanité vit un processus d'aliénation radicale.
Alors, dans le même thème est abordée une autre imposture, hein, à travers les pages consacrées à l'Antéchrist. Avant d'évoquer la sortie, par exemple, en bande dessinée de l'adaptation du célèbre roman de Michael O'Brien, une précision. Alors, l'Antéchrist, c'est qui ou c'est quoi?
Alors effectivement, il ne faut pas confondre le diable d'un côté, c'est-à-dire Satan, l'ange déchu, l'auteur du péché, et l'Antéchrist de l'autre, qui est un homme impie. L'Antéchrist est, pour la tradition catholique, inspiré par le diable. Une célèbre fresque de Luca Signorelli, que nous reproduisons d'ailleurs dans le journal, dans la cathédrale d'Orvieto en Italie, dépeint les deux côte à côte. Hein. Vous voyez l'Antéchrist qui prêche devant la foule, et Satan, juste à côté de lui, qui lui murmure les paroles à l'oreille. L'Antéchrist, c'est celui qui est opposé au Christ. Saint Jean en parle dans ses épîtres, annonçant qu'il doit venir, et Saint Paul parle, toujours dans son style percutant, on pourrait dire qui est le sien, que l'Antéchrist est le fils de la perdition, celui qui s'oppose et s'élève contre tout ce que l'on nomme Dieu et qui se fera passer pour Dieu lui-même. Et par la suite, les pères de l'Église vont développer cette figure d'un antéchrist venant juste avant la parousie, c'est-à-dire le retour du Christ en gloire.
Alors cette sortie en question, cette sortie en bande dessinée, c'est intitulée Une Apocalypse. C'est publié aux éditions Salvator et, comme je l'ai noté un peu avant, c'est une adaptation des livres remarquables de l'écrivain canadien Michael O'Brien.
Oui, Père Elijah, une apocalypse. Et du coup, nous proposons une interview exclusive avec Michael O'Brien, qui met en scène dans son roman le Père Elijah, qui est un frère carme, à qui le pape demande de lutter contre l'Antéchrist en la personne d'un politicien à qui rien ne résiste. Alors, là encore, il y a une certaine tension, une ligne de crête à respecter. Comment évoquer la fin des temps, l'apocalypse, alors que, nous disent les évangiles, nul ne connaît l'heure? Alors, O'Brien explique qu'il y a deux erreurs à ne pas commettre. D'abord, ça serait une hyper-interprétation des faits qui reviendrait à voir l'apocalypse partout et vivre dans une peur constante. Mais en même temps, il met en garde contre une autre erreur qui serait l'indifférence. Hein. Penser que les catastrophes et les erreurs qui se répandent à travers le monde, eh bien, ne sont que la marche normale de l'histoire humaine. Restez éveillés, hein, nous dit Michael O'Brien, là encore en citant l'exhortation christique, et méfiez-vous de ceux qui minimisent la valeur de la vie humaine, ceux qui rejettent les absolus moraux et d'autres voilà, autres signes antéchristiques, si l'on peut dire ainsi.
Alors, dans une interview donnée à ce France catholique, hein, celui de cette semaine, Michael O'Brien évoque le livre biblique de l'Apocalypse comme étant un manuel de survie qui doit nous rappeler l'importance de l'espérance.
Oui, à la fin, c'est le Christ qui gagne, hein, dit pour résumer Michael O'Brien. Alors, ayez confiance, c'est vraiment le message qu'il adresse aux lecteurs de France catholique.
Et vous donnez un conseil de lecture pour ceux qui ne connaîtraient pas des ouvrages fréquemment cités par les papes, un ouvrage plus ancien de Vladimir Soloviev et un autre de Monseigneur Robert Benson.
Oui, deux classiques de la littérature eschatologique catholique. Donc d'abord le court récit sur l'Antéchrist de Vladimir Soloviev et de l'autre le Maître de la Terre de Monseigneur Benson. Alors, les deux ouvrages ont été écrits à la même époque, hein, 1899 pour le premier et 1907 pour le second. Les récits ont sensiblement la même trame, hein, c'est l'accession au pouvoir universel d'un homme se drapant dans les bons sentiments et exerçant une séduction totale. Mais il y a un mais, et vous l'aurez deviné, c'est que cette personne, c'est l'Antéchrist. Pour Soloviev, ce qu'il caractérise, c'est qu'il croit en Dieu, mais qu'il veut prendre sa place au fond de son cœur. Alors que le Christ apporte le glaive, lui va apporter la paix. Alors que le Christ promet la répartition, eh bien, la rétribution, pardon, l'Antéchrist propose plutôt la répartition. Et au jugement dernier annoncé par le Christ, eh bien, il veut opposer son propre jugement. C'est donc mu par l'orgueil qu'il s'oppose au Christ, dont il nie d'ailleurs la résurrection. Et ce chemin spirituel de cette personne qui est l'Antéchrist, eh bien, va faire en sorte qu'il va se laisser manipuler par le diable jusqu'à devenir donc le roi du monde en prêchant la paix universelle et la persécution des chrétiens. Alors chez Benson, le schéma est similaire, hein, mais l'avènement de l'Antéchrist est la conséquence d'un délitement de la société traditionnelle. Cet Antéchrist dont on parle, c'est un sénateur, hein, Julian Felsenburgh, qui séduit les foules en prêchant la paix. Les bons sentiments sont partout, et ils sont jusque dans un ministère dédié à l'euthanasie, ce qui n'est pas sans faire sourire ou plutôt s'en faire grincer des dents au regard de l'actualité, et où les religions sont perçues comme la survivance d'un passé obscurantiste. Et peu à peu, de prêcheur de paix, eh bien, il devient un persécuteur total. Alors, il faut reconnaître que l'on craint, quand on lit ces ouvrages, que tout cela ne soit prophétique, car après tout, ils reprennent l'idée du Christ, hein, qui exhortait ses disciples à se méfier des loups déguisés en agneaux. Alors, ce sont deux grands livres, donc, pour tous les types de lecteurs. Le court récit de Soloviev, hein, comme son nom l'indique, est très bref, et Le Maître de la Terre est plus dense. C'est un roman d'aventure, selon les mots de son auteur. À noter, alors vous l'avez expliqué, vous l'avez dit, Olivier, hein, que ça a été recommandé par les papes. Le Maître de la Terre a été recommandé par Benoît XVI, puis par François, hein, personnellement recommandé. Chacun a dit que la lecture de l'ouvrage l'avait beaucoup bouleversé. Alors, Le Maître de la Terre, hein, c'est un ouvrage important qui fait 300 pages environ, qui est très dense, mais qui vaut le coup d'être lu. Hein, si les lecteurs, si les auditeurs de Radio Maria se demandaient quel livre lire dans les prochaines semaines, ben voilà, on recommande Le Maître de la Terre, qui vaut notamment pour sa fin. Alors, nous garderons la surprise pour les auditeurs, mais c'est une lecture en tout cas qui ne s'oublie pas. Et dès qu'on referme le livre, eh bien, on le referme avec le souffle coupé.
Lecture adoubée par Benoît XVI, le pape François, et qui aura certainement la vertu de maintenir dans un état de vigilance et de prière. Alors, on est sur Radio Maria France et à France Catholique, On ne vous raconte pas d'histoire non plus. C'est le tour de France Marie-Alain qui va finir cette revue de presse commentée. Elle va nous amener cette fois-ci en Dordogne, à la Pietà du Périgord.
Oui, Notre-Dame de Capeloud, dans le très beau pays entre Bergerac et Rocamadour. Alors, on ne sait pas de quand date l'église originelle, mais on peut en tout cas remonter de sources sûres à 1153, puisqu'elle est évoquée par le pape Eugène III. Alors, la légende raconte qu'un berger a un jour trouvé une statue de la Vierge dans ce lieu-dit de Capeloud, qu'il la rapporte chez lui, mais que le lendemain, la statue a disparu et qu'elle est réapparue à Capeloud, où est donc construite une chapelle pour cette statue miraculeuse. Alors, cette chapelle sera profanée et la statue brisée hein, lors de la Révolution française en 1793, mais l'histoire cruelle, tragique et malheureusement banale en tout cas pour cette époque, connaît un retournement. L'auteur de la profanation se convertit et reconstruit la chapelle pour expier ses fautes, et on remplace, eh bien on remplace la statue et la dévotion mariale reprend de plus belle à Notre-Dame de Capeloud en Dordogne jusqu'à aujourd'hui, à tel point que en 2023, la chapelle pourrait devenir une basilique à l'occasion des 150 ans de sa reconstruction.
Alors que ça serve de leçon à nos révolutionnaires et à nos profanateurs, hein. C'est la conversion qui les attend pour expier leurs fautes. En tout cas, Constantin de Vergennes, je rappelle que tout est accessible sur votre site france-catholique.fr et que dans ce numéro, ils seront bien alertés des dangers de l'occultisme et suffisamment mis en état de veille pour traverser tous ces temps qui sont troublés. Nous le savons aussi à Radio Maria France. Nous vous retrouvons jeudi prochain. Chers auditeurs, c'était notre émission France Catholique, la revue commentée. Vous étiez avec Constantin de Vergennes. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur notre site internet radiomaria.fr.